Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, notre deuxième édition, notre deuxième émission après du spectacle de la fébrilité et des buts ce soir dans les matchs européens de Ligue des Champions, toujours haletant et avec... Le PSG est battu ce soir au Parc des Princes par le Barça sur le score de 3-2. Les Parisiens ont été dominés en première mi-temps avant de plutôt bien réagir en deuxième mi-temps, mais pas assez. L'homme du match, c'est un Barcelonais, le Brésilien double buteur Rafinha. Et ce qu'on peut dire, c'est que Xavi, le Blaugrana, a gagné son match contre son ancien entraîneur Luis Enrique. Le match retour en Catalogne sera très difficile pour les Parisiens. À Madrid, l'Atlético, vainqueur du BVB, les Colchoneros ont cédé cependant en fin de partie, score 2-1 avec un but de Dortmund signé de l'éléphant vainqueur de la Coupe d'Afrique, un certain Sébastien Haller. Match retour, là aussi très ouvert, un peu comme les matchs d'hier soir d'ailleurs, et nous allons en parler. Demain soir, l'OM en piste en Ligue Europa à Lisbonne, au stade l'Estadio da Luz. Attendu de pied ferme, les joueurs marseillais qui joueront face au Benfica, l'équipe lisboète qui a perdu le titre de champion au cours du week-end et qui mise tout sur l'Europe. En toile de fond, une histoire de supporters qui gâche un peu la veille de match et nous y ferons allusion. Avec vous, Marc Libra, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous.
Tout va bien ?
Très bien, écoutez, ça va.
Les Marseillais vont bien ?
Ils dorment là.
Ils vont mieux que les Parisiens.
Ah oui, c'est sûr. Mais pour l'instant, ils vont bien.
Ils pensent à leur match de demain, oui, pour l'instant, on peut dire aussi. Bonsoir Patrick Juillard.
Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Et puis d'ici quelques instants, nous allons retrouver au Parc des Princes Cédric Delivera qui a suivi le match pour Radio Foot International. David Finzel est là, fidèle au poste. Et Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Le Barça, c'est toujours une équipe historique, toujours une équipe à respecter.
Match Yamal, l'extérieur du pied pour Lewandowski. C'est Rafinha. Et sur une nouvelle situation, c'est Rafinha qui pétrifie les Parisiens. Le PSG était très 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 naïf encore une fois. Ça revient vers Dembélé, le crochet. Attention, les draps sont dans la barre sur la frappe. Et le deuxième but du PSG, juste après l'égalisation de Dembélé. Si Vitinha, le Portugais, qui vient de libérer le Parc des Princes en quelques minutes. Pedri, le premier ballon est beau. Le premier ballon de Pedri est superbe. C'est une offrande délicieuse pour Rafinha qui calme les ardeurs parisiennes sur cette reprise de volée. Gundogan travaille encore bien son ballon.
C'est la cinquième confrontation entre le PSG et le Barça et une fois encore un scénario imprévisible, encore une fois sans doute aussi une grosse déception que suscitent les Parisiens. Les Parisiens avaient pourtant pénétré sur cette pelouse dans une ambiance des grands soirs européens et il y a longtemps que le Paris Saint-Germain ne disputait plus un quart de finale de Ligue des Champions, mais les Parisiens ont perdu. Écoutons tout de suite l'analyse du capitaine de ce PSG. Marquinhos.
Personne n'attendait un match facile. Ceux qui attendaient un match facile, je crois qu'ils ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. Alors c'est un match qui ça a été un peu trop ouvert. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu des difficultés, on a essayé de presser. Et on a été très haut, une individualité derrière. Et eux, ils se sont entraînés de casser cette ligne directement sur Lewandowski. Et ils ont très bien fait, c'est comme ça qu'ils nous ont mis beaucoup en difficulté, je pense. Nous, on a eu des bons moments dans le match, surtout en début de deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que c'est des détails qui font la différence. Je pense que c'est surtout ça là-bas qu'il faut qu'on améliore. Et après tout est joué, on connaît notre force. On est parti à Real Sociedad et on a cherché ce résultat. Il faut y aller là-bas et faire la même, il faut tout donner. Parce qu'il n'y a pas de choix, il faut aller là-bas, il faut chercher cette victoire.
Alors évidemment, le capitaine des Parisiens est déjà dans le match d'après et heureusement pour lui, il est dans le match retour. Mais tout de suite, on va rejoindre Cédric De Oliveira. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Annie, bonsoir tout le monde.
C'est drôlement calme autour de vous, Cédric et Oliveira.
Ah oui, oui, ah bah là,
ça
forcément,
donne tout de suite une idée de ce qui s'est passé.
Oui, on évite aller en dehors du stade pour aller rentrer chez soi pour éviter les rassemblements dans les transports parisiens. Il y a quelques supporters barcelonais qui ont donné de la voix pendant un quart d'heure et puis maintenant ils sont un petit peu plus calmes, quelques centaines de Barcelonais parqués derrière. L'ancien virage Boulogne.
Cédric, on vous a entendu évidemment avec les autres confrères dans la première partie de Radio Foot International, scénario auquel on ne s'attendait pas et un scénario que vous avez pu voir sous vos yeux et qui a bien des explications, cette défaite du Paris Saint-Germain sur sa pelouse.
Bon, un scénario auquel on ne s'attendait pas, en tout cas on ne s'attendait peut-être pas autant de fébrilité de la part du PSG, notamment défensivement. Il y a eu 20 minutes, on va dire, plutôt convaincantes. Paris qui est rentré assez bien dans cette partie, avec une attitude assez conquérante. Et puis dès que le Barça a accéléré, a profité des espaces dans le dos de la défense du PSG. Je ne sais pas si c'est le moment en tout cas de cibler quelques joueurs, mais c'est vrai que le Brésilien Lucas Beraldo a paru très 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 en dessous du niveau qu'on peut espérer en Ligue des Champions. Il y a eu quelques arrêts de Donnarumma et après ils ont encaissé un but franchement assez logique de Rafinha. Et derrière il y a eu ces 5 minutes de folie, on va dire un quart d'heure, puisque ensuite après le but de Dembélé, celui de Vitinha, Barcola a touché la barre, mais ensuite il y a quand même du talent au Barça et il y a surtout des erreurs défensives quand même qu'on n'avait pas vu depuis longtemps au PSG, notamment ce corner de Gundogan sur le troisième but et Christiansen qui était tout seul au 6 mètres. Il y avait quand même trois défenseurs autour de lui et il a pu reprendre ce ballon de la tête. À ce niveau, en quart de finale de Ligue des Champions, quand vous défendez comme ça, je pense que c'est très difficile de pouvoir espérer aller plus loin.
Mmh. Marc Libra, on se souvient qu'il y a, je ne sais pas, c'était il y a un mois, hein, le tirage au sort.
Ouais.
On se souvient de cette espèce de petit frisson, on va dire, du côté des Parisiens, en se disant « Ah ben, le FC Barcelone, on a une vieille histoire entre nous, une flamme qui ne s'éteint jamais, mais surtout, c'est peut-être le bon moment de prendre ce Barça qui ne va pas très bien et tout. » Et c'était aussi pratiquement le moment où le Barça commençait revenir mieux. Et c'est ce qu'on a vu ce soir.
Le Barça retrouvait son niveau, retrouvait Ter Stegen aussi, qui est un gardien important qui a été blessé presque 3 mois. Et surtout, on nous expliquait déjà, les médias, la presse, qu'en demi-finale, on peut déjà prendre cette équipe et on va croiser Madrid ou City en finale. Voilà ce qu'on nous racontait.
Mmh. Parce que le prochain tour pourrait être.
Ah oui, mais c'est super facile là. Annie, j'abonde dans l'autre sens.
Ça, c'était un peu les gens qui s'emportent. Mais en tout cas, on se disait.
Il y en a beaucoup quand même, Annie.
On se disait peut-être qu'ils ne tombent pas sur le Real, ils ne tombent pas sur City. On avait l'impression que Barça était.
On avait déjà fait les calculs. En fait, on n'apprend pas de nos erreurs. Mais je ne mets pas que Paris, je mets tous les clubs. Rappelez-vous, on fait une petite digression. Marseille bat le PSG en coupe. Ah non, mais ça y est, on va en finale. Oui, mais il y a Annecy. Annecy, on perd. Vous voyez, mais c'est exactement, on n'apprend pas, on n'en a rien à faire, tout est très facile. Oh mais le Barça, mais c'est fini. Oh, l'entraîneur, il a dit qu'il va partir. Oh mais c'est super. Ah oh, mais vous rendez compte, à l'arrivée, on met pas les ingrédients nécessaires, on ne fait pas les efforts et ça donne ce genre de choses. Après Paris, pour moi, a des joueurs qui sont très moyens et on l'a vu ce soir. J'aurais aimé qu'Mbappé joue ce soir. Le problème c'est qu'ils l'ont pas fait jouer, donc je suis un peu désolé quoi. Mm-hmm. Je suis désolé.
Patrick Juillard, c'est vrai que on a été surpris par le manque d'énergie, le manque aussi de cohérence peut-être de cette équipe parisienne.
Pour moi c'est pas un problème de cohérence, c'est un problème de niveau.
De niveau, oui.
De niveau, à la fois de niveau global chez certains joueurs qui n'ont clairement pas le niveau Ligue des Champions sur des matchs à haute intensité, à élimination directe, enfin en 2 tours comme ça, dont Donnarumma dans les buts, dont Beraldo en défense, dont Ruiz au milieu. Alors il fait une passe décisive bien, bien sentie, mais c'est un joueur pour match de bienfaisance, c'est pas un joueur pour Ligue des Champions, Ruiz. Il n'a pas le niveau. Dans l'engagement, je veux dire. Le Coréen Lee, il n'est pas inélégant, il a du ballon, mais c'est un joueur qui joue en ballerine, quoi. C'est pas un joueur qui met l'intensité.
On
a vu la différence quand Zaïre Emery, qui était soi-disant en pleine déconfiture, est rentré. On a vu une différence d'abattage et d'envie impressionnante. Et puis, il y a des joueurs qui veulent trop en faire parce qu'ils voient bien qu'il y a des manques dans cette équipe. Et Dembélé, c'est pas possible d'avoir un tel déchet à ce niveau-là. On doit être un peu plus
même
juste.
S'il inscrit le oui, but, non, il sonne un peu la révolte.
Il sauve un peu les apparences sur un but un peu venu d'ailleurs, sur une frappe incroyable.
Parce qu'après, il a une autre occasion mais et il prend le pied du poteau.
Il rate des choses beaucoup plus faciles que ce but très difficile qu'il marque. Donc c'est rageant. C'est
une
un joueur qui est,
à la
qui est parfois enthousiasmant et souvent exaspérant. Et surtout, c'est un joueur qui ne corrige pas ses défauts. On peut voir un jeune joueur dire il a des défauts, mais il va progresser, il ne progresse pas. Et Barcola, quand il est rentré, alors il a raté certes une occasion importante, mais la frappe sur la barre, elle est belle. Mm-hmm. Il donne un ballon que Mbappé doit mettre au fond, qu'il ne met pas au fond. Lui, il fait moins de choses, mais il les fait mieux. Et il y a des réflexions à avoir ouais, là-dessus.
Ça fait beaucoup de différence quand il est rentré.
Voilà.
Là,
c'est plus
après,
net.
Peut-être que tactiquement aussi le fait de mettre parce que du coup ça a décalé Dembélé dans l'axe et que se retrouver un petit peu plus proche de Mbappé. Du coup ils ont un peu plus combiné et ça pouvait faire un peu plus de décalage. Mais oui, je suis assez d'accord avec Patrick. Il y a des joueurs qui n'ont pas été au niveau ce soir et. Et encore une fois,
qui n'ont pas été
face,
ou qui ne sont pas au niveau parce que c'est pas de ce match-là. Et puis en plus, on se demande.
En tout cas,
ça s'est vu
sur ce match-là spécifiquement. Et on voit surtout au Barça des joueurs qui eux ont plutôt répondu présent. On se posait la question de savoir si Mbappé allait profiter des, on va dire, de la relative fébrilité de la défense barcelonaise. Ça a été tout au contraire.
Koundé,
exactement. Koundé a fait un très très gros match face à son partenaire en équipe de France. Au milieu de terrain, les Gundogan, De Jong, même Cancelo sur le côté. Enfin bref, il y a eu des joueurs, on n'a pas vu vraiment, en tout cas, de faille dans cette équipe.
Disons que je pense qu'il ne faut pas être également sévère avec tous les joueurs dont on a parlé, parce que Beraldo, qui a 20 ans et demi et qui arrive de São Paulo où il a fait que deux saisons professionnelles,
il arrive à Noël en
on
plus,
peut là, lui hein. accorder, disons, le bénéfice de la jeunesse et de l'inexpérience. Et puis parce qu'il est là parce qu'il y avait des blessés. Mais Donnarumma, les faiblesses qu'on voit depuis le début sur les matchs à haute intensité où il est vraiment sous pression, elles ne disparaissent pas et ce soir elles se sont même aggravées. Et Dembélé, les défauts dans l'efficacité et dans l'utilisation du ballon, je suis désolé, ils ne sont pas corrigés. Donc on ne peut pas être indulgent avec ces joueurs.
Marc, vous étiez d'entrée en plus surpris par la composition de l'équipe, les choix de Luis Enrique.
Déjà, Luis Enrique, c'est une composition qu'il n'avait jamais posée sur un papier, sur un terrain. Donc c'est assez surprenant. Parce que là, c'est vrai, si on doit rentrer dans le vif du sujet, on peut se poser la question aussi de Luis Enrique, ce qu'il a fait. Pour moi, à un moment donné, il a fait n'importe quoi. N'importe quoi, je m'entends, c'est le week-end dernier, il sort 11 joueurs. C'est-à-dire qu'il y a 11 joueurs différents. On leur explique, mais vous jouez clairement pour nous dépanner, vous ne jouerez pas face au Barça, vous nous regarderez. Déjà, ce genre de choix dans un groupe, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Danilo ne démarre pas? Pourquoi Ramos, qui est un joueur actuellement, qui est pour moi le plus intéressant devant? Pourquoi Mbappé ne joue pas? Pourquoi Mbappé est à ce niveau-là? Pourquoi Mbappé ne fait pas les efforts? Pourquoi il est souvent hors-jeu à 3-4 mètres? Parce qu'il veut tellement ce qu'on appelle tirer la carotte et aller marquer des buts. À un moment donné, il faut arrêter à un moment donné. Parce que tout Mbappé qu'il est, tout grand joueur, le meilleur joueur de la planète, je suis désolé, hier soir, on a vu un très grand match avec des grands attaquants qui sont Bellingham, qui sont Vinicius, qui sont des super joueurs. Mbappé, on nous dit en France, non, c'est le meilleur, il est meilleur que tous ces joueurs. Ce qu'on a vu là, c'est qu'on a vu Mbappé qui ne joue pas. Il a envie ou il n'a pas envie? Et pourquoi
Marc,
on le laisse sur le terrain? Excuse-moi,
je
finis. Et tu vois, sur certains matchs où, face à Brest, il le sort, ou comme Monaco, il n'est pas très bon. On n'est pas content. Mais là, est-ce qu'il méritait de rester? Alors on dit, on attend l'exploit. Mais tu peux pas jouer en attendant l'exploit d'un joueur. C'est pas possible.
Ouais, mais c'est vrai que il est quand même à part.
À part de quoi? En 2020, la finale face
joueur,
à Munich, il joue, il a deux plats du pied, il les met dans les bras de Neuer. Là, on nous explique.
C'est un joueur qui a marqué en finale de Coupe du Monde.
Oui, mais attendez, on parle du PSG, les amis. On va pas reparler.
Ça reste quand même quelqu'un qui.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce soir?
On
était par exemple resté, on a beaucoup parlé de son triplé marqué au Camp Nou contre le Barça, c'est sûr.
Moi, j'ai un problème avec le rôle de Mbappé cette saison, c'est que cette saison, Neymar et Messi sont partis. Ce sont deux créateurs en moins. Et donc, ça doit donner, dans la construction du jeu même, des responsabilités nouvelles à Mbappé. Il les a voulu.
Parce que
ce rôle, il l'a voulu aussi. Et là, il continue de jouer comme si c'était un simple finisseur qui était juste là pour finir les actions. Et moi, j'attends plus de lui, même dans les efforts de repli défensif. J'aime pas la tendance française de ne juger les attaquants que sur leur travail défensif. Mais à l'inverse, Mbappé, il n'en fait vraiment pas assez, quoi.
On va en parler du Barça et des bons éléments et de l'homme du match, Cédric de Oliveira. Mais celui qui nous a paru être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur du PSG ce soir, c'est Vitinha.
Oui, bah comme dans la lignée un petit peu des dernières semaines, des derniers mois, qu'il a un peu surnagé au milieu, il a trouvé des décalages. Après, il a souvent été dépassé quand même parce que, en fait, on parlait des choix de Luis Enrique, mais c'est vrai que Warren Zaïre-Emery était sur le banc et d'habitude, il profite un petit peu de l'impact du français autour de lui. Là, il ne pouvait pas tout faire. Je crois que Fabien Ruiz, effectivement, était... un petit peu en dessous et il a marqué un but encore le Portugais Vitinha avait déjà marqué au Vélodrome dans le moment fort de ce PSG. C'est vrai que c'est la grande satisfaction du PSG ce soir, mais c'est peut-être la seule.
Et alors le FC Barcelone, à contrario, Marc, lui, il a joué sa partition. C'est-à-dire que ce soir, on n'a pas été surpris. C'est eux qui avaient la possession, bien sûr. Et puis les changements sur le banc, malgré tout, malgré les limites que connaît Xavi cette saison, les changements se sont fait énormément sentir aussi. Ça a été un bénéfice.
Si on prend l'exemple, quand Pedri rentre sur sa première passe, il est capable de mettre un petit ballon en cloche pour Rafinha, qui met un but exceptionnel. Mais je pense que surtout
Christensen aussi.
Christensen qui rentre. Là, normalement, il ne doit pas marquer, puisque normalement, Donnarumma, dans les 5-50, il doit s'imposer avec la masse qu'il a, il doit chavirer tout le monde, il ne le fait pas. Mais je pense que Xavi, sur ce coup-là, a gagné sa bataille face à son ancien coach, parce qu'il a su s'adapter. Parce que quand Barcola rentre, il a fallu quoi, 10-15 minutes pour remettre les choses en place. Ça y est, Xavi, il a dit bon, ok, on va changer. Parce que Vitinha explose et a marqué ce but, parce qu'on a trois attaquants à ce moment-là qui font les efforts. Et d'un coup, il y en a. Barcola va essayer de faire la différence. Il y a ce poteau qui peut faire un petit peu la différence, mais il ne marque pas. Et d'un coup, on retombe dans un foric où Mbappé ne veut plus forcément, comme disait Patrick, ne veut plus forcément faire d'efforts et défendre. Il repart un peu sur son côté, manger la ligne où ça n'a rien à voir. Et là, il y a un décalage. Et là, Barcelone se remet à jouer au football comme si de rien n'était. En fait, le football, c'est très simple. Il y a des choses à respecter. Si on ne les respecte pas, on se fait de suite rentrer dedans. C'est ça. Et Rafinha, qu'on avait vu, qui était passé par Leeds, qui était... Il a fait ce qu'il a voulu. Ouais,
l'homme de Bielsa, on s'en souvient, il fut un temps.
Il a fait ce qu'il a voulu. Il a fait ce qu'il a voulu avec des joueurs qui ont 16 ans, 17 ans.
On l'a vu venir en plus ce but parce qu'il a plusieurs occasions en début de match.
Patrick. Non, mais globalement, il n'a pas tout réussi, mais il a marqué deux buts splendides, surtout le deuxième. Et puis, il a fait peser une menace. Et c'est ce qu'on attend dans ces matchs de très haut niveau à haute intensité. On attend. Même dans le jeu sans ballon, même par leur simple présence, que les joueurs électrisent un peu la défense et leur mettent un peu le trouillot, entre guillemets, le trouillomètre à zéro. Ce que n'a pas suffisamment fait le PSG. Dembélé l'a fait, parce que c'est vrai qu'un petit peu, dans le début de ses actions, à chaque fois, on se dit « Ah, c'est bien, ça commence bien ». Et à chaque fois, on dirait qu'il n'arrive pas à passer de la phase d'attaque et de percussion à la phase de brève, la brève phase de réflexion où il doit faire le choix. Est-ce que je mets une passe en retrait ou est-ce que je frappe? Et quand il frappe, à chaque fois qu'il marque, c'est des buts venus d'ailleurs parce qu'on a l'impression qu'il ne contrôle pas ses frappes, ce joueur. Et là, c'est un peu ça. Il a tiré un peu n'importe où et il s'est avéré que ça a fait un but splendide.
L'action est très bien
menée. Mais l'action, ils prennent une vitesse incroyable parce que Mbappé aussi sauve une passe un peu trop longue de Dembélé. Par sa vitesse, il la sauve, il la lui remet bien. Mais c'est un peu de la haute voltige. On ne peut pas faire ça tout le temps. Il n'y a pas une haute sécurité dans cette action.
Il n'y a pas une construction, surtout. C'est plus de l'agence.
Doit être pris tout de suite.
C'est du Moura football. Mais ça, c'est beau quand ça réussit, mais c'est rare.
Cédric, finalement, on se souvient aussi des phrases de Luis Enrique qui disait « Nous serons meilleurs en février ou nous serons meilleurs en mars », n'est-ce pas ? Même l'équipe aujourd'hui, quand ils mettent face à face les équipes, on voit bien 41 matchs pour Luis Enrique et 16 pour Xavi, évidemment comme entraîneur, hein, pas comme joueur, parce que là, Xavi il battrait largement Luis Enrique. Et malgré tout, on a un résultat étonnant, c'est-à-dire que cette équipe n'est pas meilleure.
Ah non, elle n'est pas meilleure. En fait, elle a quand même eu la possession. Hein, le PSG a eu plus de 58% de possession de balle. C'est peut-être une fausse impression quand on regarde le match. Mais en tout cas,
c'est lent
à jouer. Non, mais à jouer tout simplement plus juste, à jouer finalement plus en transition, à jouer beaucoup plus. En fait, tout simplement une équipe avec plus de cerveau, un peu plus intelligente. De toute façon, quand vous avez des joueurs comme Gundogan, comme De Jong,
c'est vrai que ce sont des joueurs de foot. Un peu
plus... Voilà, c'est des joueurs de foot qui sont un peu plus.
Ouais, et puis il y a une sacrée expérience, hein, Gundogan.
Et au départ du but de Rafinha sur le premier, en fait, il y a une passe de Koubarsi qui casse deux lignes.
Il y a Berardo qui se jette comme un minimum.
Vous avez Lewandowski qui fait un match admirable, même s'il n'a pas marqué. En tout cas, il a joué tout juste. C'est-à-dire qu'il a aspiré ses défenseurs, il a défendu effectivement. Et en fait, on a l'impression d'avoir vu une équipe tout simplement plus sûre de son foot, même avec des joueurs de 16 ans et de 17 ans. On n'a pas forcément vu. Il y a aussi des jeunes joueurs au PSG, mais je rejoins un peu ce que disait Patrick. Voilà, on a l'impression qu'il faut que les planètes soient alignées pour que le PSG marque des buts. Et bon, c'est pas tout le temps le cas, et on peut pas toujours compter sur le talent de joueur. Il y a eu, effectivement, Mbappé n'a pas fait un bon match, et il y a surtout eu une forme de systématisme du côté du Paris Saint-Germain, notamment en première période, c'est d'aller toujours le chercher sur sa position préférentielle à gauche. Bon, à un moment donné, Xavi, il est pas bête, il a regardé les matchs.
Il a dit
à Koundé, tu le connais, tu l'as en sélection, tu le prends. Araujo, c'est pareil, c'est pas non plus un perdreau de l'année.
Il se rêve un ballon à un moment absolument
devant
incroyable.
Barcola, il le rattrape.
Sur Barcola, effectivement.
Il lui ôte une occasion de but.
Alors justement...
Et puis Cancelo a été bon aussi de l'autre côté.
Voilà.
Alors que on présageait en tout cas des difficultés de son côté.
Ouais, cette équipe du Barça, elle a été même à son niveau, je dirais, au niveau en tout cas d'un quart de finale.
Au niveau d'intensité déjà. Parce que le niveau d'un Gundogan, d'un De Jong, tout ça, on le connaît.
Ils sont
au niveau. Mais il faut... Je pense que Mbappé peut être au niveau aussi, mais encore faut-il mettre l'intensité et avoir le sens du collectif et bosser pour l'équipe. Si on attend que tout vous tombe tout cuit dans le bec, ça risque pas d'arriver quand vous avez ce Barça-là en face de vous. Hein. Là, on ne joue pas contre le Ferencváros ou le Maccabi Tel Aviv. Là, hein.
Qu'est-ce qu'on disait dans les travées du parc, ou qu'est-ce que vous entendiez comme réaction, Cédric, autour de vous tout à l'heure? Ah, Cédric a disparu. Lui aussi, il doit être triste du côté du Parc des Princes.
Vous voulez que je limite ? Non, non.
Non. Mais alors, projetons-nous un petit peu sur le match retour. Et notamment, il y aura Hakimi quand même. Hakimi qu'on a vu là, les gros plans, il était en tribune.
Ça fera pas de mal.
On rappelle suspendu, même si c'est pas le Hakimi peut-être de l'an dernier. Mais en tout cas, c'est
Ça peut pas faire de mal.
Oui, voilà, exactement.
Ça peut pas faire de mal. Surtout que c'est un ancien du Real Madrid, donc il va jouer à Barcelone. Il est né, a grandi en Espagne. Enfin, il y a quelque chose qui peut le surmotiver, peut-être. Ça peut pas faire de mal, mais ça fera pas tout. En revanche, ça fera pas tout.
Ça fera peut-être pas assez de bien.
Et il faut globalement que le PSG hausse son niveau d'exigence, hausse son niveau d'engagement, et puis peut-être éviter du côté de Luis Enrique certaines erreurs de casting au niveau du 11 de départ. Enfin, il y a des joueurs pas au niveau, on l'a vu ce soir.
Marc, quand on parle match aller chez soi et qu'on part à Barcelone avec en plus évidemment des fantômes dans la tête, et ça on va pas les répéter mais on les connaît tous, est-ce que on part vraiment avec, comme on dit dans certains sports, gros handicap?
Non, il n'y a pas d'handicap. Après, la plupart des joueurs...
Un but de retard, et on rappelle, les buts ne comptent plus double dans cette Coupe européenne.
Non, mais tout est possible pour Paris. Rien n'est fini, puisque Mbappé a été absent. Il peut sortir de sa boîte.
Il peut être hyper présent.
Comme la Real Sociedad. Mmh. Et puis à l'arrivée, il va faire la différence. À la mi-temps, tout est réglé. Le problème, c'est qu'il va falloir le montrer, il va falloir le faire. Donc, dans les têtes, rien n'est perdu. Il y a toujours un espoir pour Paris, mais il faut à tout prix y aller avec d'autres intentions et essayer de jouer en équipe, parce qu'on risque de tourner autour de la même chose. Il y a des joueurs de talent et puis il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. S'ils arrivent là-bas en terrain conquis, en pensant qu'en attendant qu'Mbappé nous fasse l'exploit, parce que Xavi, comme on a dit, on sait que la plupart des joueurs vont tout donner à Kylian Mbappé. Vous arrivez à couper cette passe-là, on est bon. Mais cette passe-là, on l'a coupée. Et c'est vrai que c'est... Est-ce que dans les têtes ça va compter? Il y a qui? Marquinhos, qui est encore là de l'époque, qui a vécu ça? Ou il était remplaçant à l'époque, Marquinhos, en 2017? Je crois qu'il
non, il était sur le terrain.
Il était là.
Il était là,
bien sûr.
Voilà. Bon, mais c'est le seul.
Il n'y avait pas beaucoup qui étaient là. Il y avait Ter Stegen, il y avait.
Non, mais je parle côté parisien. C'est eux qui ont vécu le traumatisme.
Ah oui.
Après, c'est la presse qui va le relayer, qui va le rappeler que. Oui. Mais la plus grosse déception, c'est ce soir. C'est parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient gagner.
Exactement.
Non, après, ce ne sera pas le même contexte. Ce ne sera pas au Camp Nou, déjà. Rappelons-le, ce n'est pas pareil. Ouais. En termes d'ambiance et d'atmosphère, ce n'est pas pareil. Ça peut être un petit avantage pour le PSG, mais il ne faut pas compter dessus. Moi, ce PSG-là, pour moi, c'est une faillite dans l'engagement. Et y a des joueurs qui doivent se remettre en question, et Mbappé en premier lieu.
Ah ouais, c'est Mbappé.
Sur ce qu'a dit Cédric, sur le niveau notamment de Cancelo et Koundé, c'est vrai sur la globalité, mais il faut dire aussi que le PSG les a un peu, si je puis dire, mis en confiance. Parce qu'en tout début de match, les 10 premières minutes, le PSG fait plutôt une entame intéressante. Mais à force de rater et d'être imprécis dans les zones clés... les joueurs se mettent en confiance en face. Les défenseurs se disent finalement c'est pas si terrible, on va y arriver.
Cédric, on essayait de se projeter simplement sur le match retour qui se jouera donc en Catalogne, qui se jouera à Barcelone, pas au Camp Nou comme le soulignait Patrick. Ce Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on peut en attendre?
En tout cas, beaucoup plus de solidité. je ne sais pas, Luis Enrique qui a été un petit peu, on va dire, qui a été humble à sa manière avant le match en conférence de presse, va devoir peut-être un petit peu travailler, en tout cas un petit peu plus, voir les failles et peut-être dans le choix des hommes aussi. Je crois que c'est Marc qui parlait de faire des changements, 11 changements par rapport à Clermont. Il y a peut-être des choses à voir pour match de ce week-end. Essayer de travailler d'autres choses et voir... comment trouver une composition qui pourra être la plus dangereuse et surtout solide, parce que le Barça, en tout cas on l'a vu, est un club qui, malgré le fait qu'ils sont en reconstruction, est toujours dangereux, a des joueurs d'un talent incroyable, et il va falloir sortir un énorme match en tout cas pour se qualifier. En tout cas, si Paris est aussi solide que ce soir, ça ne passera pas, ça c'est sûr.
Je ne me trompe pas, ils ne jouent même pas ce week-end.
Ils sont ménagés, je crois.
Ah oui, ils jouent
exactement.
Même pas, c'est vrai.
Ils sont ménagés pour le prochain match.
Vous avez raison, intérêt du football français, Marseille et Lille.
J'avais oublié, effectivement, ce petit détail qui n'en est pas un.
Ce qui leur aurait fait peut-être du bien, à la limite.
En 93, je précise qu'en 93, face à Valenciennes, ils n'ont pas fait l'effort. Non, mais c'est l'histoire, vous savez, c'est l'histoire. Non, mais il faut se rappeler que l'histoire, à l'époque, on demande de ne pas jouer ce match, on dit non, vous allez jouer. Voilà, là.
Oui, mais Marc,
c'est la blague, c'est une autre époque, mais c'est pour dire.
L'exemple du match de Valenciennes n'est pas très heureux, je pense.
Non, mais.
Et secondement, alors, sur ces histoires de report, on a réduit le championnat à 18 clubs pour alléger le calendrier. On a supprimé la Coupe de la Ligue. Et maintenant, on vient reporter les matchs des clubs européens.
C'est énormissime. Ouais.
En bouleversant totalement le planning des adversaires de ces clubs.
Mm-hmm. Mais on s'en fout.
Et en les faisant jouer en semaine, donc perdre de l'argent au niveau des recettes stades. Bref, tout ça est quand même pas très sérieux. On voit pas ça dans les autres pays, quoi.
Voilà pour ce qui est donc...
Après, le Barça n'a pas joué...
depuis 10 jours.
Depuis un moment. Mais il y avait la coupe et tout ça. Mais c'est vrai que... on le voit dans d'autres championnats quand même, Patrick. Des petits ajustements
pas
comme ça.
Pas aussi flagrant quand même. Mais bon.
Pas aussi... en tout cas, c'est vrai que là, c'est une première que la Ligue, en tout cas, se positionne aussi clairement pour les clubs en Coupe d'Europe.
Bon, selon David Finzel, Mbappé ne se loupera pas de match. Donc nous verrons n'est-ce pas? Vous serez aux premières loges, Cédric de Oliveira.
C'est vrai qu'il va falloir, en tout cas, c'est là. Hein, c'est normalement,
exactement,
c'est là qu'il est
le
meilleur.
L'attend.
C'est là qu'il nous
quand
montre
il est piqué.
Généralement...
c'est ce qu'il aime bien,
que
prouver sur le terrain.
C'est ce qu'il aime bien.
Bien sûr.
Va falloir être très très costaud.
Oui. Merci beaucoup Cédric d'avoir été en direct du Parc des Princes avec nous. Et bonne fin de soirée du côté d'un parc qui n'est pas du tout en fête. Nous, on continue. On va évoquer le deuxième match de la soirée. Alors, on l'a regardé un petit peu moins, on vous le cache pas. Mais en tout cas, on était dessus et on en a parlé. On va en parler.
Absent sur le dernier match, on commet l'erreur. Elle est de trop, cette erreur. L'énorme boulette de la part de Yann Madsen qui cherche à retrouver son gardien. Incompréhension totale. Et l'Atlético Madrid met 1-0. Griezmann, ballon, flippé, Lino. Oh, la sanction est immédiate. Le manque de communication entre Nico Schlotterbeck et Mats Hummels est sanctionné cash.
Deux erreurs, de grosses erreurs en quart de finale de la Ligue des Champions.
À Haller. Oh, incroyable, avec ce ballon récupéré par Sébastien Haller.
Une victoire des Colchoneros sur leur pelouse, eux, du côté de Madrid. Ils ont remporté ce match, l'Atlético Metropolitano. Victoire 2-1. Alors, on vient de l'entendre avec Sébastien Haller qui a inscrit un but. En tout cas, on l'a vu, Patrick, dès le début. Ce sont les joueurs de l'Atlético qui ont donné le ton quand même de ce match.
Oui, et par contre, c'est Dortmund qui a donné les buts plutôt.
Parce aussi.
Que les deux buts, ce sont deux grosses erreurs, de grosses bévues de relance. Les joueurs veulent trop bien faire, veulent relancer court dans les pieds. Finalement,
les gardiens,
les joueurs, les
tous. Ça s'appelle une mandanda, Patrick, tu te rappelles 2018,
ouais,
une mandanda.
Ouais, je me rappelle
l'axe.
Bien. Ouais. Mais
face à l'Atlético, c'était l'Atlético aussi.
Oui. Ouais, à Lyon.
Et c'était une finale d'ailleurs.
Et c'était une finale,
on s'en souvient.
On s'en rappelle.
Mais
ouais.
Et l'Atlético n'a pas vraiment capitalisé là-dessus. Et finalement, le but d'Allaire redonne beaucoup d'espoir à Dortmund. Alors, le 1-0 ne suffira pas, puisque rappelons-le, en Europe, la règle du but à l'extérieur a été supprimée. Mm-hmm. Mais ce but donne de l'espoir, un but un petit peu spécial.
Relance en tout cas, Dortmund.
Où il fait comme une sorte de toupie autour du ballon, il ne sait plus trop où il est.
Se retourne.
Il arrive à la frapper un peu en pivot et à la mettre dans sur le côté fermé du gardien. Donc un joli but de
Sébastien
renard.
Sébastien Haller, entré à la 60e minute.
Sébastien Haller qui a du mérite parce qu'il était parti blessé à la canne. Il a mis du temps à pouvoir rejouer. Il a été le héros décisif au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire progressait dans le tournoi. Il s'est reblessé et la saison ne se goupille pas très bien pour lui. Il a peu de temps de jeu.
Mais quand il
on s'est même interrogé sur est-ce qu'il allait rester ou pas. Mais là, quand il est là, il montre que c'est un sacré renard, quoi, vraiment à l'air.
Oui, dans le vrai
sens
du terme.
Donc, c'est sympa de le voir comme ça.
Marc ?
Je trouve qu'on a très vite les limites de l'Atlético qui, quoi qu'il arrive, essaye de mettre une pression. Dortmund, c'est vrai, donne ce premier but, mais en seconde période, il y a deux, trois fois, Dortmund touche la barre. Le retour va être très compliqué. C'est vrai que Koke, De Paul, ces joueurs du milieu de terrain, qui est Llorente, qui sont hyper intéressants. J'ai vraiment l'impression qu'à l'heure actuelle, ils sont un petit peu rincés. Dortmund en a profité en seconde période. Il y a une transversale, il y a une barre. Et chez eux, avec Emre Can, Fulkrug devant, qui est très bon, je pense qu'ils auraient dû essayer de faire un petit peu plus la différence. Ils ont pu le faire pendant une heure et ils ont baissé le pied au bout d'une heure. Et c'est là où Dortmund a commencé à prendre dessus. Et normalement, il aurait pu avoir 2-2. Même, ils auraient pu s'imposer en fin de match. Donc, le retour va être assez impressionnant. Après, on sait que cette équipe-là, l'Atlético, ils sont capables de souffrir et de fermer, rester dans les 40 mètres.
Ils savent souffrir.
Ils savent souffrir ensemble.
Et
à l'image de Griezmann, qui est capable, lui, d'attendre. On parlait d'Mbappé, du sacrifice. On en parle de Lewandowski, qui n'a pas joué, mais qui s'est sacrifié pour tous les autres. Griezmann le fait avec tout son bloc. Donc, moi, je pense... Je pense que Dortmund est capable de se qualifier. Vraiment, je pense.
Ça pourrait être une surprise, effectivement.
Ouais,
mais en tout cas, pour l'instant, retour très ouvert sur le score de 2-1. Ouais. On sait que l'Atlético est aussi très dur à cuire dans sa défense. Allez, on continue parce qu'il y aura aussi de l'Europe. Mais là, ce sera demain soir.
Où ça au stade de la Luz.
À l'Estadio da Luz.
Pardon.
Et ça sera aux limites de l'Europe, pas très loin du Cap Saint-Vincent.
Le stade de la Luz, c'était plutôt le PSG ce soir. Pardon.
Oui.
Les solutions, il va falloir vite trouver, c'est jouer sur la fierté.
On doit tous se regarder dans une glace, tous prendre ses responsabilités.
J'espère que le bon sens va retrouver ses droits. Que les supporters soient avec nous à l'extérieur dans un quart de finale. Pour le football, c'est une fête.
Un conflit hors terrain qui a envahi l'avant-match de ce quart de finale de Ligue Europa entre l'OM et le Benfica. Un conflit autour de la présence ou non des supporters, un peu de part et d'autre. Alors pour l'instant, 3000 Marseillais sont attendus du côté de Lisbonne et la plupart étaient déjà en route.
Ils étaient sur la route, le problème.
Ouais,
certains étaient déjà là-bas.
Et oui, et ils sont menacés de rester à la porte du stade car la France interdirait, mais alors c'est une information qui apparemment n'est pas confirmée, mais pourrait interdire la semaine prochaine les supporters supporters portugais. Donc les Portugais veulent anticiper. Ils disent, ben alors nous, on va fermer les portes aux Marseillais. Bref, le président Longoria du club de Marseille s'est un peu énervé. Lui, il menace de ne pas assister au match en solidarité avec ses joueurs. On en est là. On imagine qu'il y aura des négociations. Et on l'a entendu, Jean-Luc Gasset. Il dit quand même il faudrait que le bon sens prime. Pour ce qui est de la rencontre purement sportive, OM Benfica, donc deux dynamiques bien différentes pour ces deux équipes. Le Benfica, hôte de la rencontre, qui vient de perdre le derby. Alors c'était contre le Sporting au cours du week-end sur le score de 2-1. Et donc qui voit s'échapper pratiquement le titre de champion du Portugal. Et donc d'autant plus motivé par l'Europe. Et on les connaît, le Benfica, on les voit souvent en Ligue des Champions. Alors que les Marseillais, eh bien, ils vont plutôt pas bien, allez, on va pas dire mal, pas bien en Ligue 1. Et c'est l'heure de réagir. En tout cas, c'est ce que leur intime, leur entraîneur, Jean-Luc Gasset.
C'est une obligation. C'est pas chaque année. Quand vous vous retournez derrière sur votre carrière, c'est fragmenté. Mais des quarts de finale, c'est pas souvent. Donc aujourd'hui, il faut que ces joueurs se rendent compte de l'événement, se rendent compte du niveau qu'il faut avoir. Il faut qu'ils arrivent à hisser leur niveau au niveau de l'événement. Quart de finale de la Coupe d'Europe avec un match retour au Vélodrome.
On n'en doute pas quand même. Est-ce qu'il en doute, Jean-Louis Gasset, là, en faisant cette déclaration de la prise de conscience de ses joueurs, Marc ?
Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, est bien d'accord. Là, j'ai déjeuné chez un ami italien à midi, là, je vous raconte ma vie. Il me parle pareil, il me dit, est-ce que les joueurs vont prendre conscience que... Mais c'est l'entraîneur. Comment on peut expliquer ça ? Oui, il faut qu'il se regarde dans une glace, il faut qu'il soit bon. C'est quand même lui, l'entraîneur. Alors, je sais qu'il est là pour dépanner, mais c'est lunaire d'entendre ça. Excusez-moi, mais on peut le repasser, c'est énorme. Mais à quel moment, tu dis, oui, il faut se rendre compte que, mais oh, c'est pas Patrick et moi qui sommes en bas et qu'on discute tous les deux.
De Gasset,
non, mais c'est ça qui est complètement lunaire. On nous explique le pourquoi. Ils vont prendre conscience. Les joueurs. Alors, non, il faut qu'on se rende dans une glace.
Pierre-Emerick Aubameyang, qui est le meilleur buteur de la compétition en ce moment, de cette compétition en tout cas, dit, la Ligue Europa pour nous, c'est comme un rayon de soleil. Donc, on imagine quand même que les joueurs, ils savent.
Les joueurs sont au courant, mais que l'entraîneur explique le pourquoi du comment, il vaut mieux qu'il nous dise écoutez, j'ai pas mal de blessés, ça va être difficile, on est dans une passe difficile, on a rencontré les 8 premiers championnats, on a perdu, là, il peut se passer quelque chose si on ne se fait pas détruire à Benfica, parce que ça, pour moi, ça va être très difficile au Vel, avec notre public, il peut se passer un truc, mais raconte-moi ça, ne me dis pas, oui, je pense que peut-être qu'il va y avoir un espoir pour nous si... Ah non, c'est pas possible d'entendre ça. Ça paraît fou, quoi.
Alors, si Jean-Luc Gasset a, semble-t-il, quelques précautions oratoires, avant de ne pas dire quelques doutes...
C'est aussi son style un peu paternaliste.
Ouais. Vous en avez, vous, des doutes sur l'OM du côté de Lisbonne ?
Oui, j'ai des doutes, parce que Jean-Luc Gasset a commencé son mandat...
Avec une dynamique incroyable.
En jouant le Shakhtar, équipe un peu en difficulté, un peu SDF, entre guillemets, enfin SSF sans stade fixe. Et ensuite, en enchaînant des matchs contre des équipes très mal classées de Ligue 1,
et Clermont,
contre lesquelles son équipe s'est mise en confiance, a marqué beaucoup de buts.
Et c'était nécessaire,
a
parce
produit
qu'il sortait
du
d'un
jeu,
tunnel quand même.
Donc a retrouvé un certain allant collectif, mais en fait, c'est un peu une mèche courte. Et depuis ces matchs-là, c'est difficile. Il y a eu le match contre Villarreal qui a été pas mal. L'aller, le retour où l'OM a failli passer par la fenêtre.
T'as perdu ton premier match là et tu te fais peur.
Et ensuite,
tu retombes dans tes travers.
Ouais. Ensuite, c'est très difficile. L'OM marque de moins en moins. Il y a beaucoup de blessés. Beaucoup de joueurs sont revenus de blessés
énormément.
De la trêve internationale.
Et puis ceux qui n'ont pas été inscrits pour la compétition, tout ça, il y a
ça,
plein de choses absolument
il y a des choses qui ont été mal programmées, si on peut dire.
Anticipées.
Et donc au final, l'OM se retrouve avec un effectif réduit et des espoirs réduits, à mon sens. Je pense qu'il faudra éviter une rouste demain, avant tout. Déjà limiter la casse à l'aller.
Alors, ça sera un des rôles évidemment importants du défenseur ou de la défense. Y aura-t-il Chancel Mbemba, notre prix Marvin Fouet de l'an dernier, sur le terrain ? Lui qui revient de blessure, écoutons cette petite indication de l'entraîneur.
J'espère. Quand les joueurs font des essais comme ça la veille du match, on dira c'est 50-50. Ouais. D'accord ? Donc, j'espère beaucoup.
Marc, est-ce qu'en fonction de ce qui lui est arrivé à Chancel Mbemba, en fonction aussi de ses capacités, vous pensez que demain, il pourra être là ?
C'est surtout, comme il est sorti, avec les deux kinés de chaque côté qui le tenaient, ça paraît lunaire qu'il soit là. Ça dépend, Annie, on fait quoi ? On joue la Ligue Europa à fond ou on joue le championnat pour essayer de récupérer l'Europe l'année prochaine ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Les deux.
Mais tu peux pas les deux, tu n'y arriveras pas. Ben donc, il faut faire un choix.
Vu l'effectif.
Donc, moi, je privilégie peut-être le championnat pour essayer d'accrocher même la petite Coupe d'Europe parce qu'il faut l'Europe à Marseille. Mais si demain, à Benfica, ça démarre au bout d'un quart d'heure, tu prends un but de but et qu'il se blesse, tu fais quoi? Alors là, tu n'es pas bien.
Après, moi, je ne suis pas dans le secret des médecins et des rapports médicaux de l'OM. Mais je pense que vu les difficultés et les flottements actuels de l'OM, s'il est ne serait-ce qu'à 60-70%, je pense que Gasset prendra le risque de l'aligner.
Il n'a pas surtout pris le risque de prendre Sébastien Haller pendant longtemps, hein,
oui,
c'est ce qui lui aurait servi.
Là, il est pas dans, c'est pas pareil, là, il n'a pas la même logique de groupe dans un club comme l'OM où il y a beaucoup de blessés qu'avec la Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier que c'est un match qui se joue au Portugal, un championnat où Chancel Mbemba a longtemps joué. Il connaît très bien, il a aussi peut-être une envie particulière de se montrer à son avantage. Donc je pense que ça peut concourir à faire jouer.
Ça peut.
Eh bien, ça sera le match de demain soir à suivre. Il y aura aussi un autre club français hein, en Ligue alors là, Europa Conférence. C'est à Birmingham. C'est là que est allé Lille ce soir. Le LOSC qui jouera contre Aston Villa en quart de finale. Et nous allons évoquer maintenant les qualifiées africaines pour les JO. Les Jeux Olympiques, ça s'est joué hier soir en Afrique du Sud et en Zambie. Alors, dans la première partie de Radio Foot, on l'avait évoqué, le Nigeria, Patrick Juya, a réussi. On attendait en fait les Nigérianes et elles ont réussi à se qualifier contre l'Afrique du Sud.
Oui, ça n'a pas été facile. Elles avaient gagné 1-0 chez elles et elles ont réussi à sauver le nul qualificatif malgré une domination de l'Afrique du Sud, mais qui n'a pas été efficace. Donc le Nigeria à l'expérience est passé. Donc ça, c'est assez logique. Ça sera leur cinquième participation, ce qui est quand même une preuve de régularité. Et la Zambie qui a réussi à renverser le Maroc
incroyable.
À Rabat.
Oui. Alors le Nigeria se retrouve dans le groupe B, hein, États-Unis, avec les États-Unis, l'Allemagne et l'Australie. Autant dire que
un
ça sera
gros,
pas simple.
Gros casting.
Gros casting. Oh, oui. Et le groupe C pour la Zambie avec le Brésil, le Japon et l'Espagne. Et justement,
pas
on en a parlé
plus.
Dans ouais, la première dur, hein. partie de Radio Foot International.
Les Jeux Olympiques et le tournoi de football féminin. 12 nations en tout sont qualifiées pour ce tournoi de foot. Les deux pays africains qui vont prendre part à ces Jeux sont à présent connus. Il s'agit de la Zambie et du Nigeria. On entend la liesse dans le vestiaire des Nigérianes après leur qualification. C'était face aux Sud-Africaines. Elles avaient emporté 1-0 à l'aller, puis avaient concédé le nul à Pretoria. Ça faisait 16 ans que le Nigeria, l'équipe féminine du Nigeria n'avait pas disputé les Jeux Olympiques. D'où la joie de leur sélectionneur Randy Waldrum. Je vous propose de l'écouter.
Je suis très satisfait de ce que les joueuses ont accompli. C'est exactement ce que je leur avais demandé. Il fallait tenir le résultat acquis à l'aller pour passer. On savait que les Sud-Africaines viendraient nous presser. Nous les respectons beaucoup, nous connaissions leur qualité, mais nous avons tenu bon. Donc je me réjouis, y compris pour les supporters, parce que je sais ce que représente cette qualification pour eux et pour la fédération. D'autant que cela fait 16 ans que nous n'avons pas disputé les Jeux. Je suis ravi pour le peuple nigérien.
Cette qualification du Nigeria face aux Sud-Africaines, Ludovic, c'était logique ou plutôt surprenant ?
Non, enfin logique, ça a été extrêmement serré, hein. Ça s'est joué à un but finalement sur les matchs aller-retour. Moi j'avais eu la chance de les suivre pendant la dernière Coupe du Monde. C'est vrai que j'avais déjà adoré cette équipe, les Super Falcons comme on les appelle. Elles avaient été en huitième de finale et battues seulement au tir au but par l'Angleterre. Elles avaient même battu l'Australie chez elles. Donc ça avait été une super compétition pour les Nigérianes. Et non, c'est une super équipe. Après, l'Afrique du Sud est habituée aussi à jouer elles étaient à la Coupe du Monde, oui. De jouer de grandes compétitions. Donc c'était extrêmement serré. Mais c'est vrai qu'elles font la différence avec leur gardienne que l'on connaît bien, parce qu'elle joue au Paris FC, Nadosi, et surtout Oshoala devant, qui est la buteuse, l'ancienne buteuse du Barça, qui est partie aux États-Unis. Mais elles ont un peu ce petit truc en plus qui fait qu'après une Coupe du Monde vraiment réussie, elles vont aux Jeux Olympiques et il va falloir s'en méfier. Le Nigeria, bon, je parle des garçons aussi, mais aux Jeux Olympiques, a souvent bien réussi. Donc, assez logique, pas illogique en tout cas, de les voir aux Jeux Olympiques.
En ce qui concerne la Zambie, la qualification était-elle acquise ou pas, Nabil ?
Pas du tout. On peut même parler presque d'un exploit, même si elles font coup double, elles y retournent au JO. Donc, elles avaient quand même des références. Elles ont de la qualité. On a vu notamment leur attaquant... buteuse Banda qui a été fantastique, qui a été qui a porté littéralement son équipe, mais elles avaient perdu à l'aller chez elles. On sait que le Maroc a mis beaucoup de moyens pour notamment briller chez les féminines. On a vu ce qu'elles ont fait à la dernière Coupe du Monde. Elles avaient affronté l'équipe de France. Elles étaient sorties d'une poule extrêmement compliquée avec l'Allemagne, la Colombie.
La Corée du
Sud. Bon, elles avaient été surclassées par les Françaises, mais bon, elles s'étaient invitées à un niveau qu'on n'imaginait pas. C'est le coup d'arrêt.
Mais oui, c'est fou. Le coup d'arrêt. Comment on explique l'absence du Maroc dans ce tournoi
olympique ? Déjà, il y a un moment, il n'y a que deux nations participantes. C'est-à-dire que la densité des meilleures équipes, c'est-à-dire que là, vous jouez des demi-finales de Cannes, quoi. Quasiment, quoi. Donc, il y a un moment, il y a quand même des adversaires et elles ont été solides mentalement, les filles de Mouépé. Et puis le Maroc a raté le coche sur plusieurs situations. Et ensuite, je pense qu'elles se sont un peu liquéfiées parce que je pense qu'elles n'avaient pas programmé de se retrouver en prolongation, surtout quand vous gagnez à l'aller, quoi. Moi, ça me rappelle un peu Algérie-Cameroun chez les hommes. Vous gagnez au Cameroun.
Vous avez gagné 2-1 en Zambie.
Vous gagnez au Cameroun et puis au retour, vous dites que vous avez fait le plus dur. Je pense qu'il doit y avoir un aspect psychologique. Maintenant, c'est un coup d'arrêt, mais ça n'efface pas tous les progrès qui ont été faits du côté du Maroc. Maintenant, j'espère voir les nations africaines
performer.
Ouais, et les JO, je pense que c'est un format de compétition qui peut leur correspondre. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Ludovic.
Et en plus, les Marocaines avaient mis toutes leurs chances de leur côté parce qu'elles ont pris comme sélectionneur Jorge Vilda, qui est juste le champion du monde en titre avec l'Espagne. Donc, elles pensaient avoir fait peut-être le plus dur en prenant le sélectionneur qui était à la mode. C'est Renal Pedros qui les avait emmenés en huitième de finale. Qui avait fait un super travail, Renald, l'ancien Nantais. Donc voilà, c'est, je pense, une vraie déception pour les Marocaines.
Ouais, mais ça doit pas en fait briser la dynamique.
Non, bien sûr.
Et ça le sera pas.
Voilà, c'était l'extrait de Radio Foot International, première partie autour de Sarah Lou Bakouche et autour de cette qualification donc et de la Zambie et du Nigeria pour les JO. Elles seront donc à Paris, ces filles. Il nous reste quelques secondes. Marc Libra, résumons donc la soirée. Le Parc des Princes, une énorme déception.
Oui, c'est une énorme déception parce qu'on s'attendait à voir un beau spectacle. On a vibré sur deux matchs hyper importants hier soir. Et puis malheureusement, on n'a pas vu la même chose. Surtout que Paris, encore une fois, avec Mbappé, s'attend à être champion d'Europe. On attend ça. Malheureusement, ça ne sera peut-être pas pour cette année. Alors, il reste encore un match retour à faire, mais il faut nous montrer autre chose.
Bon, c'est vrai que de la part des Parisiens, on peut s'attendre à tout quand même aussi,
Ouais,
Patrick.
On peut s'attendre à tout, mais malheureusement, à ce stade de la Ligue des Champions, avec l'expérience, il faut surtout s'attendre au pire. Malheureusement.
C'est vrai.
Il faut être... À chaque fois, on s'attend à Monts et Merveilles, un grand spectacle, tout est réuni pour un grand match. Alors, c'était un beau match, mais malheureusement, pas dans le sens qu'espéraient les supporters du PSG et ça... Les problèmes se poursuivent d'année en année.
En tout cas, les matchs retour sont ouverts, hein, messieurs, ouais. Puisqu'on a eu ce score de 2-3 donc, en faveur de Barcelone qui recevra pour le match retour. Pour ce qui est de l'Atlético, victoire mais 2-1 et match retour à Dortmund, on verra ce qui se passe. Et puis hier soir, c'était ce fameux City-Real 3-3, Arsenal Bayern, face au Bayern 2-2. Donc là aussi, des retours
ça
très
promet.
Ouverts. La semaine prochaine, on sera là pour deux éditions et vous verrez, ça sera passionnant. Merci de nous avoir suivis ce soir. Merci Patrick et Marc.
Merci beaucoup.
Cédric de Oliveira, merci aussi à lui. Il est déjà sur le chemin du retour. On se dit à demain, chers auditeurs, pour continuer à parler football et on reviendra évidemment sur tous ces matchs.